franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, l'augmentation des risques de démence après le tsunami japonais, 2 ans et demi justement après ce tsunami de mars 2011. Une équipe de chercheurs de l'école de médecine d'Harvard, Chan, s'est rendue au Japon pour étudier les conséquences psychologiques de ce raz-de-marée dévastateur sur les personnes âgées. Leurs résultats sont parus dans la revue PNAS. On apprend notamment que perdre sa maison et être placé dans des abris provisoires a des effets inattendus et augmente les risques de démence. Bonjour Bruno Millet.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeur de psychiatrie adulte à l'université Paris 6 et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est la première fois, Bruno Millet, que des chercheurs font un lien entre catastrophe naturelle et risque de démence ?
Écoutez, à ma connaissance, c'est la première fois et c'est effectivement ce qui est original dans cette étude, c'est qu'il s'agit d'un lien direct entre l'augmentation de l'incidence des démences et une catastrophe naturelle. Pour moi, c'est un peu surprenant. J'avais plutôt la notion de l'impact de la catastrophe naturelle sur la survenue d'états de stress post-traumatique,
ouais.
mais sur des syndromes démentiels à proprement parler, à ma connaissance, ces choses-là n'avaient pas été documentées, sauf par le biais des états de stress post-traumatique, justement.
Et justement, quel type de symptômes apparaissent chez les personnes âgées après le tsunami ?
Alors, les symptômes qui sont décrits dans l'article, c'est d'abord les personnes ont été, c'est une cohorte de personnes âgées qui ont été examinées, et il apparaît des troubles de la mémoire, des difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace, des difficultés de communication. Et puis, les auteurs de cet article ont également évalué les troubles mentaux et du comportement qui accompagnent cette altération des fonctions cognitives. Et donc, ils ont examiné les éléments délirants de persécution. Ils ont examiné aussi la tendance des patients aux confabulations. Et ils ont conclu que, eh bien, il y avait un impact direct entre justement la survenue de ce tremblement de terre et l'apparition donc de détériorations cognitives plus importantes chez les gens, en particulier qui avaient vu leur maison détruite.
Un des résultats de cette étude, c'est que c'est davantage la perte d'une maison qui va choquer les personnes âgées plutôt que la perte d'un être cher, par exemple.
Alors ça, c'est surprenant, mais en même temps, je pense que les auteurs ont voulu éliminer toutes les questions liées au deuil. Et au deuil pathologique, notamment, qui sont presque des équivalents de dépression. Et on sait que les deuils pathologiques, quand vous perdez quelqu'un de proche, un ami, un frère, dans une catastrophe, c'est évidemment extrêmement douloureux. Et souvent, vous êtes confronté à des états de deuil. Et des états de deuil qui sont, sur le plan symptomatique, très comparables à des états dépressifs sévères. Et on sait que ces états-là sont souvent des états que l'on peut confondre avec des débuts de démence également.
Et alors justement, Bruno Millet, comment on fait le lien direct entre ces états de démence et le tsunami japonais ? Quelle a été la méthodologie pour étudier ces cas particuliers chez les personnes âgées ?
Alors en fait, ils se sont, c'est très intéressant parce que ils ont effectué une étude de cohorte prospective sur une communauté de sujets âgés. Et je dois dire que l'originalité de cette étude repose là-dessus, c'est-à-dire qu'il est rare que l'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà programmé, c'est dans le cadre des études épidémiologiques en population générale qu'ils menaient, et ils ont mené donc en 2010 une étude en population générale sur une large cohorte de sujets âgés de plus de 65 ans.
Donc avant le tsunami, hein ?
Avant le tsunami. Puis le tsunami a lieu en 2011, hein, si les informations sont, sont correctes. Et puis, ils réévaluent les patients 2 ans et demi après le tremblement de terre. Et ils vont notamment réévaluer 3594 survivants. Et l'originalité et la force de cette étude, outre le fait que ça soit une étude prospective, c'est que les examens se font par des soignants, des médecins, hein, qui se déplacent à domicile et qui vont mener un examen complet et qui vont pouvoir conduire à l'établissement d'un diagnostic.
Les cas de démence passent de 4% en 2010, avant le tsunami, à 11,5%. C'est une augmentation inquiétante, monsieur Millet ?
Significative, oui.
Alors, c'est une augmentation significative, et pour vous donner un ordre d'idée, on considère que la prévalence, le nombre de personnes souffrant de démence au-delà de 65 ans, est de 5%. Et en deux ans, donc là, les cas de démence qui sont évalués dans la population considérée sont de, le pourcentage est évalué à 4,1%. Et en deux ans, voyez, ils augmentent, le pourcentage augmente considérablement de plus de 6%.
Bruno Millet, est-ce que la culture et le mode de vie japonais sont à prendre en compte justement pour comprendre certaines questions liées à ces situations de stress?
Très certainement. Enfin, ça, c'est vrai que ça, c'est une limite, hein, de l'étude. C'est l'intérêt de prendre en compte le facteur culturel et peut-être en particulier le fait que les Japonais soient peut-être plus attachés particulièrement à leur voisinage, à leur maison. Encore que je connais peu de populations qui ne soient pas attachées à leur population.
Habitation.
À leur habitation et à leur voisinage, à leur lieu de vie. Je pense que c'est un aspect qui est quand même très important. Et de voir sa maison détruite, c'est être souvent obligé d'être relogé, c'est quand même un traumatisme important. Mais peut-être, il n'est pas à exclure que dans une communauté insulaire de surcroît comme les Japonais, cela soit un traumatisme peut-être encore plus important que dans d'autres pays. Donc l'aspect culturel est certainement à prendre en compte. Ça ne doit pas nous empêcher, à mon avis, de réfléchir à l'impact que peut avoir une catastrophe comme ça naturelle sur le fonctionnement psychique et mental des patients.
Ça veut dire qu'on peut transposer ces résultats dans d'autres situations ?
Bah, j'aurais tendance à dire que ces résultats, en tout cas, peuvent être transposables, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ils interrogent surtout ils nous font réfléchir sur l'impact cérébral que peut avoir un traumatisme comme celui d'un tremblement de terre avec le tsunami. C'est un phénomène qui survient brutalement, en rupture avec les habitudes des sujets et qui entraîne un stress considérable.
Merci beaucoup, Bruno Millet, pour votre décryptage. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci beaucoup à vous.
Avec plaisir.
Merci Agnès.
Merci Mathieu.
Et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, y aurait-il des volcans encore actifs sur Vénus ? La question taraude notamment des chercheurs du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique qui avancent pour l'heure la piste d'un volcanisme récent. En combinant des données sur la surface de Vénus fournies par la sonde Magellan et par la sonde Vénus Express, et grâce à de nouvelles techniques, ils ont élaboré une cartographie géologique de haute résolution et ils ont ainsi pu identifier des coulées de lave sur le flanc supérieur oriental de l'Idun Mons. C'est un volcan de 200 kilomètres de diamètre, situé dans l'hémisphère sud de la planète Vénus. Les suricates intéressent décidément beaucoup les chercheurs. En septembre, Nature dévoilait que ce petit animal de la famille des mangoustes, qui vit surtout au sud-ouest de l'Afrique, était l'espèce de mammifère la plus meurtrière. Cette fois, c'est aux femelles que les chercheurs se sont intéressés. Pourquoi sont-elles si dominantes, voire tyranniques et agressives, au point d'attaquer leur père pour voler leur nourriture ? En analysant les hormones sexuelles de 37 femelles, les chercheurs ont constaté qu'elles avaient deux fois plus de testostérone que les mâles, et ça n'est pas forcément un avantage, il se pourrait que cette surabondance d'hormones mâles affaiblisse leur système immunitaire, comme le révèle leur étude parue dans la revue Biology Letters. Et puis un nouvel argument pour lutter contre le braconnage d'éléphants en Afrique, c'est l'économie tout simplement. Mettre fin au massacre des éléphants qui alimentent le commerce de l'ivoire permettrait de générer chaque année 23 millions d'euros de revenus dans le tourisme, selon une étude parue dans Nature Communication. On y apprend que la population des éléphants d'Afrique a diminué de 30% entre 2007 et 2014 à cause du braconnage. Or les touristes sont plutôt attirés par les pays où se trouvent de grands parcs d'éléphants et chaque animal supplémentaire augmente les visites de 371%, c'est ce qu'on calcule en tout cas les chercheurs, et conclut ainsi que le manque à gagner pour le tourisme est donc substantiel.